On va parler de héros. Et vous avez remarqué que ben, quand on parle de super-héros, ça va toujours nous rappeler ben, notre enfance. Je pense que vous aviez chacun, à un moment donné, donc un super-héros favori. On a compris que pour les enfants, c'était Spider-Man, donc le justicier. Et puis, pour chacun d'entre nous, et nous, chacun à son époque, donc ben, on avait voilà, un super-héros auquel on voulait ressembler, parce qu'il y avait peut-être des super-pouvoirs, certaines choses qu'il pouvait faire, et que nous, on ne pouvait pas. Alors, moi, je me souviens très bien de Noël, où mes parents m'avaient offert la panoplie de Zorro. Je vous promets que les semaines qui ont suivi, ben, je jouais à Zorro, et Zorro, c'était moi, en fait. Donc, pareil, là, c'était le justicier masqué. Alors, pour les plus anciens, hein, chacun un super héros. Mais on va voir ensemble donc, des héros. Et la Bible nous parle de héros. Et peut-être pas comme nous l'entendons. Des fois, hein, ce que je vous dis en introduction, hein, un héros, celui qui a des super pouvoirs, des forces. Et puis, on va voir que dans la Bible nous parle de héros. Nous parle de personnes avec de grandes capacités. Et, par exemple, si je vous dis Abraham, on peut le considérer quand même comme un héros de la foi. D'ailleurs, il est listé dans ce chapitre 11 d'Hébreux, hein, le chapitre de la foi, considéré comme le chapitre de la foi. Donc Abraham a tout quitté, a suivi le Seigneur. Si on parle de Moïse, alors ça c'est un héros, hein, parce que lui... voilà, quand même, il a fait des choses extraordinaires. Hein. Toujours intéressant de voir comment ces hommes, en fait, pouvaient avoir cette relation avec Dieu, une relation réelle, profonde, et puis directe. On le voit. Hein. Il y a même des versets qui sont étonnants, qui peuvent nous étonner. Et dire, ben, bon, je le crois, parce que c'est dans la Bible, mais des fois, c'est nous, hein, avec voilà, hein, des êtres rationnels, on a un peu de difficultés. Et si on parle de David, pour les sœurs Rahab, elle a eu courage, hein, Rahab. Et des fois, quand on pense à super-héros, je suis sûr, si j'avais demandé, j'avais fait un sondage, quel est votre super-héros, hein, chacun d'entre vous, de la Bible, c'est pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui aurait dit, ben, la petite servante qui a témoigné, Naaman. Eh oui, hein, dans les petites choses. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on a tous une image de super-héros, et on se fait tous une image, mais Dieu voit autrement. Parce que c'est lui qui qualifie. C'est lui qui donne ben, cette puissance nécessaire. On va voir quelques exemples de héros qui ont été qualifiés de héros. Et on va voir que quand même le Seigneur, il voit autrement. Et par exemple, il y a les héros de l'ombre. Hier, il y avait un jeu avec les jeunes. Là, je vous donne juste quelques noms. Certains pourraient dire, ah, j'ai pas pensé à celui-là. Tichik, pour la lettre T. Vous vous souvenez? Donc, Tichik, Onésime, Aristarque, Justus, Épaphras, Démas, Nympha, Archip, etc., etc. Et pourtant, ils sont répertoriés comme des héros dans la parole. Alors, on va voir le premier exemple qui va nous parler, hein, parce qu'on le connaît, et il nous ressemble finalement, chacun d'entre nous, il nous ressemble. Le premier, c'est un héros qui s'ignore. Un héros qui s'ignore. Il n'était même pas au courant que c'était un héros. Et on va le lire dans donc, Juges, chapitre 6, verset 1er. Juges 6. Alors, les lecteurs assidus de la Bible que vous êtes, vous avez déjà... vous savez de qui on va parler? Eh oui, Gédéon. On va faire différemment également. Hein. Alors, aujourd'hui, voilà, on est un peu de... dans la nouveauté. Est-ce que Mathieu Ray, tu pourrais venir nous lire Juges 6, de 1 à 10.
Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit : Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit : Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix.
Amen. Alléluia. Voilà, merci Mathieu Ré pour cette lecture. Et on voit ici, finalement, c'est l'appel de Gédéon. Le Seigneur va venir, va l'appeler, mais dans un contexte particulier. On a lu ensemble que ce contexte, c'est les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et on remarque ici que quand on fait ce qui déplaît à l'Éternel, derrière, il va toujours y avoir des conséquences. Et les conséquences, elles ne peuvent pas être bonnes parce qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. Donc, on voit donc les enfants d'Israël firent ce qui était mal. Et finalement, c'est une trame récurrente dans le livre des juges. Quand on lit le livre des juges, quand on finit le livre des juges, on se dit « Aïe, 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 ce peuple, il a été quand même assez dur, hein, parce qu'à un moment donné, donc, ils s'éloignaient de Dieu, Dieu leur lançait un appel, ils revenaient à Dieu, et puis ça continuait. Il est même dit, à ce moment-là, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Tiens, ça ressemble un peu à l'époque que nous vivons aujourd'hui, surtout pas. Parce que quand on fait ce qui déplaît à l'Éternel, les conséquences sont derrière. Et il y a des choses qui plaisent à l'Éternel. Heureusement, un cœur contrit. La louange plaît à Dieu. Ce que nous avons fait ce matin, en tant que peuple de Dieu, ça réjouit le cœur de Dieu. Et donc, ce sont des choses dans lesquelles nous voulons y aspirer, y rentrer encore et toujours. Mais il y a des choses qui déplaisent à l'Éternel. Cette semaine, si vous avez le temps, vous lirez Proverbes chapitre 6 et vous allez voir qu'il y a des choses que non seulement qui déplaisent à Dieu, mais les mots sont tellement importants, mais que Dieu est haï. Il ne peut plus les tolérer, il ne supporte pas certaines choses fondamentales que l'on retrouve dans chaque vie et dans chaque cœur. Donc des choses qui déplaisent à Dieu. Mais, encore une fois, le plan de Dieu, on s'aperçoit que quand on est dans la volonté de Dieu, on l'a vu dimanche dernier, il y a un plan de Dieu. Et des fois, le Seigneur, pour toucher notre cœur, il va permettre certaines situations, on l'a lu encore une fois, l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Cette tribu nomade du sud et qui avait des liens familiaux avec les Hébreux par Keturah, la femme d'Abraham, hein, donc une autre femme d'Abraham, également par le beau-père de Moïse qui était de cette tribu, de toute cette lignée. Et en fait, c'était ces Madianites. Il les livra. Ce sous-entend que Dieu, à un moment donné, va permettre certaines choses dans les vies, dans nos vies, afin de nous réveiller. Parce que l'être humain, hélas, il est comme ça. S'il n'y a pas un électrochoc, en fait, il part dans une direction, on a beau lui dire, attention, nous avons emprunté ce chemin par expérience, nous avons emprunté ce chemin, il conduit à une impasse, et c'est même un tourbillon, c'est quelque chose qui va nous tirer vers le bas, mais on ne peut pas s'empêcher de dire, mais moi, je m'en sortirai. Mais moi, ça ne va pas m'atteindre. En fait, on n'est pas meilleur que qui que ce soit. Hein. Si ce n'est pas par la grâce de Dieu qui nous tient debout, on est tous logés à la même enseigne. Et donc, Dieu va permettre, et il va permettre pour un certain temps. 7 ans. Dites-moi, 7 ans, c'est long. Hein. Pendant 7 ans, ils vivent sous la domination des Madianites. Eux, le peuple, qui normalement aurait dû être à la tête, et non pas à la queue, parce que ça, c'était la promesse. Et dans le Deutéronome, à la fin, où il est dit les bénédictions que Dieu voulait pour son peuple. « Mais la main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian, les enfants d'Israël. » Regardez ce qu'ils faisaient. Ils se retiraient dans les ravins des montagnes, c'est au verset 2, « aux ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. » Les Israélites, ils se retiraient. Eux qui étaient le peuple élu, choisi de Dieu, ils étaient dans les ravins. Et, vous le savez maintenant, les petits détails. Ravin, c'est quand on est au fond. C'est quand on est au plus bas. Et le peuple, là, on constate, était au plus bas. Ils étaient dans les cavernes, dans l'obscurité. Pas de lumière dans une caverne. Et donc, ils étaient dans une situation vraiment dramatique, dans les rochers fortifiés, parce que c'était des endroits difficiles à atteindre. Alors, ils essayaient de se réfugier, tant bien que mal. Et les Israélites, ils vont subir plusieurs choses. D'abord, ils vont subir, on le voit, la persécution, attaque des champs, la difficulté de se nourrir, la famine, quand il y a la famine. Ah, les priorités changent. La famine. Ils ont subi également l'arrogance des adversaires parce qu'il y avait ce défi permanent et donc de domination sur le peuple de Dieu, le peuple de la promesse. Donc, situation dramatique. Et ils sont dans une misère complète et totale, donc un état terrible. Regardez le revirement de situation à partir du verset 7, du passage que nous avons lu. Et c'est à partir de là que va s'enclencher la bénédiction de Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont crier à l'Éternel. Voilà ce que nous devons faire. Quand nous sommes dans le désarroi, quand nous sommes au plus bas, dans les ravins, dans l'obscurité, dans la caverne, crier à l'Éternel. Vous avez remarqué, quand on est vide, quand on a cette sensation que Dieu nous a abandonnés, c'est la dernière chose qu'on ait envie de faire. D'aller spontanément vers Dieu. Et pourtant, c'est là où il y a quelque chose qui va se déclencher, c'est là où tout va commencer. Ils crièrent à Dieu. Et ça, c'est une très bonne réaction. Et chacun d'entre nous, peu importe ce que nous traversons, même si c'est difficile, crions à Dieu. Crions au Seigneur qui est le Tout-Puissant. Et donc, à la réaction, l'Éternel va envoyer un prophète, un anonyme. Ici, il n'y a même pas le nom. Et il apporte un message d'encouragement et il va rappeler le plan de Dieu. Et à partir de là, va commencer à naître l'espoir. Il y a quelque chose qui va se passer. Et puis, il y a l'apparition de l'ange de l'Éternel. On sait que dans l'Ancien Testament, hein, quand il y a l'apparition de l'ange de l'Éternel, c'est ce qu'on appelle les Christophanies. C'est donc une révélation de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Donc, les Christophanies. Et ce qu'il va faire, l'ange de l'Éternel, tout d'abord, il est dans une position assise. Et à cette époque-là, la position assise était une position d'autorité. En fait, quand il s'assoit, c'est comme s'il il voulait montrer son autorité et puis il va venir avec un enseignement. Et le lieu où il se trouve, c'est le térébinthe d'Ophra pour rappeler que le térébinthe d'Ophra, c'était juste à côté de la ville de Haï. Et nous, quand on lit la Bible, ça nous parle Haï. Et souvent on dit aïe, hein, aïe, 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 hein, le peuple de Dieu, là, quand à un moment donné, ils ont voulu juste se reposer sur leur force, ils ont subi une défaite terrible. Hein, et l'homme de Dieu va dire, mais Seigneur, mais je ne comprends pas, il va se jeter par terre. Mais il dit, Seigneur, je ne comprends pas, il y a le péché au milieu de vous. Et ça a été radical, hein, vous vous souvenez, hein, c'était à Caen. Et il a fallu... il a perdu sa tête. Alors, des fois, c'est mystérieux pour nous. Ça semble nous dépasser. Il a été perdu, lui. Toute sa famille. Il y a des conséquences derrière. Alors, certains pourraient dire, mais c'est à une certaine époque. J'aimerais vous dire que Dieu ne change pas. Hein. Il reste le même. Alors, on peut le remercier parce que nous sommes sous l'ère de la grâce. Quand même. Merci Seigneur. Alléluia. Et donc, dans cette position assise, dans cet endroit, le térébinthe d'Ophra, il va y avoir un appel. L'appel à un homme. Un homme qui est là parmi le peuple. Et l'ange de l'Éternel va discerner chez cet homme un potentiel d'héros. Même lui, il n'était sûrement pas au courant, parce que, en fait, alors, quand je parle de Gédéon, je le dis tout le temps. Quand l'ange de l'Éternel vient et lui dit, voici, vaillant héros, c'est sûr et certain qu'il a dû se retourner pour voir si l'ange de l'Éternel parlait pas à quelqu'un d'autre. Parce qu'à ce moment-là, dites-moi, il avait quoi de super-héros ? Rien du tout. Rien du tout. Mais l'ange de l'Éternel voyait le potentiel en lui pour que ce potentiel soit finalement exploité pour la gloire de Dieu. Parce que tout est pour la gloire de Dieu. Hein. Ce n'est pas simplement pour nous. On le sait. Par exemple, le Seigneur, quand il nous baptise, il nous remplit du Saint-Esprit, c'est pour sa gloire. Tout est pour sa gloire. On l'a chanté ce matin dans ce nouveau chant. Et le Seigneur va lui dire, l'Éternel est avec toi. Il avait besoin d'être rassuré à ce moment-là. Et on a besoin d'entendre ce matin que le Seigneur est avec nous. Autant que nous sommes avec lui. Parce qu'il y a des endroits où le Seigneur ne nous suivra pas. Il ne faut pas le croire. Hein. Donc autant que nous sommes proches de lui, le Seigneur vient avec ce message, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. En fait, je l'ai marqué là entre parenthèses. Le Seigneur le voit en produit fini. En fin de chaîne. Ceux qui travaillent dans les usines. En fin de chaîne. Alors si un jour, vous avez une discussion avec certains frères, on peut dire à certains frères ou certaines sœurs, dire, attention, je ne suis pas encore fini, je ne suis pas arrivé en bout de chaîne, je suis en cours d'amélioration. En fait, c'est ça. Hein. Donc, parce que et Dieu va le voir en produit fini. Mais ce que Dieu poursuivait comme but, c'est qu'il devienne ce vaillant héros. Qu'ils comprennent certaines réalités. Et dans le Nouveau Testament, il y a également cette parole de l'apôtre Pierre qui va dire, mais vous savez que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes une race élue, un peuple élu, une nation sainte. Nous sommes des gens mis à part. Le Seigneur a donné sa vie pour nous, pour chacun d'entre nous. Alors nous avons de la valeur. Ne vous laissez jamais dévaloriser par quoi que ce soit. Surtout pas. Nous avons de la valeur aux yeux de notre Seigneur. Amen. Alors, la réaction de Gédéon, on ne l'a pas lu, mais c'est plus tard, verset 13. Tout d'abord, il y a certaines accusations. Regardez, le Seigneur il est en train de travailler son cœur. Lui, sa réaction, un peu comme nous, est tellement humaine. En fait, il commence à accuser, mais c'est parce que c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela. Est-ce que vous savez que quand on essaie de culpabiliser quelqu'un, c'est vieux comme le monde ? Dans le jardin d'Éden. La chute est là. C'est pas moi, c'est l'autre. C'est rare quand on reconnaît spontanément, je me suis trompé, c'est ma faute, je demande pardon. C'est rare quand ça vient spontanément. Donc c'est vieux, comme le monde, sa réaction, accusation. Il a même de la réticence et il montre par là de la frustration. Il est frustré. Et quand on vit dans la frustration, et quand quelqu'un est frustré, alors là aussi, ceux de Saint-Agne, les habitués, vous avez l'habitude que je le dise, quand on est dans la joie, ça se voit, quand on est frustré et dans l'aigreur, ça se voit aussi. N'essayez pas de le dissimuler par des fois un sourire, mais il cache pas en fait la frustration, parce que c'est plus fort. Ça sort et c'est là. Et lui-même, il est frustré. Alors on pourrait se dire, on comprend, on peut comprendre tout ce qu'il était en train de vivre, cette frustration. Mais il y a le cœur du message, verset 13. Il est dit, l'Éternel se tournant vers lui. Peut-être que s'il est dit ici, cette partie on ne l'a pas lu, verset 14. L'Éternel se tournant vers lui, c'est parce que peut-être il voulait partir dans sa frustration. Peut-être qu'il voulait s'en aller et dire, mais je ne veux pas. Et le Seigneur va l'interpeller. Et là, on voit la grâce de Dieu qui veut, désire, et c'est la continuité un peu du message de dimanche dernier, qui veut donc établir son plan dans nos vies. Il dit, ce message extraordinaire, va, avec la force que tu as. Dites-moi, on pose la question ce matin, est-ce qu'il avait beaucoup de force à ce moment-là ? Jamais. jamais. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de lui dire ? Il dira, avec le peu que tu vas amener au Seigneur, quand tu vas te mettre en action, le reste, c'est lui qui va le faire. C'est le Seigneur qui va le faire. Le Seigneur attendra toujours de chacun d'entre nous une réaction, que l'on puisse se lever, une action de chacun d'entre nous. Ne pas rester là où nous sommes. Le Seigneur va souvent nous interpeller. Hier, on en parlait avec certains. Et le Seigneur, des fois, il suscite, il y a ce verset-là qui me vient, il dit, je la conduirai au désert et là, je parlerai à son cœur. Alors, la question, pourquoi dans le désert ? Parce que dans le désert, c'est le seul endroit où on peut écouter. Il n'y a pas de distraction. Des fois, le Seigneur, on traverse des déserts parce qu'on n'est pas accessible. Et le Seigneur veut qu'on puisse écouter. Ce matin, c'est peut-être un message pour quelqu'un. Il lui dit, va à la force, avec la force que tu as. Avec peu, le Seigneur peut faire beaucoup. Là, ça va de suite nous rapporter à cette petite graine de foi qui est nécessaire. Ce potentiel de foi qui est là, dans cette graine, qui est capable, à un moment donné, quand elle va se développer, parce que la foi, elle est placée au bon endroit, est capable de faire bouger une montagne. Et il y en a des montagnes qui se dressent devant nous. Toute notre vie, les montagnes, en fait, la marche chrétienne, c'est vallée, on remonte, on est sur une montagne, vallée, montagne, vallée et montagne, les unes derrière les autres, sont successives. Et ça, c'est la marche du chrétien. Mais à chaque pas qu'on franchit, à chaque fois qu'on avance, à chaque fois qu'on décide de se lever pour le Seigneur et de faire la part qui nous incombe, le Seigneur fait le reste. Et peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre ce matin que le Seigneur te dit, tu es un vaillant héros. Tu n'es certainement pas Spider-Man, Superman ou les autres man possibles. Chrétien man, je ne sais pas. Mais le potentiel de Dieu est capable de faire des choses tellement puissantes. Alléluia. Amen. Et alors, l'application pour nous, Dieu utilise des instruments faibles. Surtout, n'oublions pas que nous sommes bien faibles. Alors, certains, quand il y a l'orgueil qui est là, ben, on s'aperçoit que de suite, c'est comme si on était capable de faire des choses extraordinaires face à des choses qui nous dépassent. Et on se dit finalement, je suis bien faible. Un diagnostic, une maladie qui est là. On se dit finalement, je suis peu de choses. Je suis pas grand-chose finalement pour m'opposer au plan de Dieu. Mais quand il y a cette attitude, je le disais tout à l'heure, quand je suis faible, l'apôtre Paul va avoir cette révélation. Mais c'est alors que je suis fort. Parce qu'en fait, je permets à Dieu de pouvoir agir dans ma faiblesse. Alléluia, amen. Et ça, c'est quelque chose que nous ne devons jamais, jamais oublier, parce que ça va nous garder dans l'humilité, finalement. Et on sait que l'humilité précède. Alors, si on change, ça nous met dans notre sens. Qui veut voir la gloire de Dieu ? Soyez humbles. Soyons humbles. Alléluia, amen. Également, la présence personnelle de Dieu est la clé de la victoire. Verset 16, si tu peux l'afficher, s'il te plaît. Regardez, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Regardez la promesse de victoire. Tu battras Madian. Il n'est pas dit, peut-être, éventuellement. On ne sait jamais. Ça peut marcher sur un malentendu. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian. Comment ? Comme un seul homme. Ça, c'est la promesse de Dieu. D'ailleurs, cette promesse, elle est valable pour nous. Ma chère, sur le scorpion, il n'y a rien qui peut nous atteindre finalement. Si on se confie dans le Seigneur, alléluia. Alors une chose est certaine, c'est que chacun d'entre nous, peut-être quelqu'un au milieu de nous, ne se considère pas comme un héros. Alors si c'est par humilité, ça va. Mais si c'est simplement par la frustration, quelque chose que j'ai vécu, quelque chose qui a blessé mon cœur, qui l'a détruit, qui l'a brisé en mille morceaux, le Seigneur dit ce matin, qu'avec peu, il peut faire beaucoup. Si la foi naît dans ton cœur ce matin, alors tu peux devenir un héros entre les mains du Seigneur et faire des choses extraordinaires. Après, notre responsabilité à chacun d'entre nous, c'est de rester, hein, je l'ai répété plusieurs fois déjà ce matin, c'est de rester dans l'humilité. On a vu des hommes de Dieu faire des choses, des miracles extraordinaires. Les archives nous montrent que dans les temps de réveil, certains hommes, donc le Seigneur les a utilisés de manière tellement puissante. Il y en a beaucoup qui se sont éloignés de Dieu, qui ont renié Dieu. Alors nous, on pourrait se dire, mais comment c'est possible? Parce que le cœur de l'homme, il y a ce penchant vers la gloire et s'attribuer la gloire pour soi. J'aimerais vous dire que Dieu ne partagera jamais sa gloire avec qui que ce soit. Même pas avec nous. Un jour, je l'avais dit, hein, donc, dans un centre de vacances où je prêchais, et deux personnes étaient venues. « Pasteur, je peux vous voir ?» Alors déjà, ça dépend le ton. C'est, oui, oui, oui. Mais comment ça, le Seigneur ne partage pas sa gloire avec nous? J'ai dit non, le Seigneur, il nous fait participer à sa gloire. Mais la gloire lui revient à lui. Tout est pour lui. Et le danger, c'est de s'attribuer cette gloire jusqu'à ce que la tête enfle et puis qu'on monte jusqu'aux étoiles et puis qu'on explose en plein vol. Il y en a vu beaucoup. Alors c'est l'image, ça vous fait sourire, mais c'est la réalité des choses. Et avec des arrois, on en a vu tellement. Un bon départ. Mais la gloire, s'attribuer la gloire, avec des titres ronflants. Ministère de ceci, ministère de cela. Que Dieu fasse qu'il trouve à chacun d'entre nous de l'humilité. S'il y en avait un qui était humble, c'est notre Seigneur Jésus. Hein. Colossiens chapitre 2, il s'est humilié. Alors qu'il était l'égal de Dieu, c'est clair, c'est net. Hein. Il s'est humilié. Il est même dit, il s'est dépouillé. Et nous avons besoin. Et le Saint-Esprit, depuis la première seconde où nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, il se préoccupe de nous dépouiller de l'orgueil et de la chair qui est là. Alors ça fait mal, hein, on est au courant, on est d'accord. Parce que ça, en fait, ça vient enlever quelque chose du fond de notre cœur. On l'a pu expérimenter. Hier, certains me posaient la question. Ils disaient ce qu'était un peu ma vie, hein, parce que je leur ai raconté avant de connaître le Seigneur. Et ils me disaient, mais comment on fait là maintenant? Je dis, en fait, comment on fait? C'est de s'abandonner au Seigneur et de compter sur sa grâce. Et c'est lui, en fait, qui change notre caractère. Tout à l'heure, je vous ai présenté donc, Nathalie qui est là. Donc, j'étais au balbutiement de ma vie chrétienne. Et je vous promets que j'étais brut de décoffrage avec, vous savez, quand on dit... Et j'avais un fort caractère. J'avais un mauvais caractère. Il était mauvais, le caractère. Et puis le Seigneur venait par son Saint-Esprit, quand je faisais quelque chose qui n'était pas à la gloire de Dieu, quand je m'emportais, quand j'étais excessif, quand je m'énervais. Puis le Seigneur, avec son Saint-Esprit, il dit, c'est pas correct. Il faut que tu changes. Mais le Seigneur, il va toujours demander la permission pour qu'on puisse changer. C'est pour ça qu'il nous donne son Saint-Esprit. Ce n'est pas simplement pour trembler et ressentir sa présence à un moment donné dans une réunion, même si on aime la présence de Dieu. Vous le comprenez. Mais c'est parce que le Seigneur veut nous amener vers une stature parfaite. Il veut nous amener à un niveau d'excellence. Amen. Moi, je ne sais pas vous, je sais que je n'ai pas atteint encore l'excellence, mais je veux y tendre, parce que ça ne peut pas être une excuse en me disant « Ah ben, on ne l'atteindra jamais, bon, advienne que pourra. » Non, je veux me résoudre à offrir le meilleur, à être excellent pour le Seigneur. D'ailleurs, on le fait hein, dans nos milieux séculiers, hein. On a de la motivation pour réussir dans la vie, réussir professionnellement, également socialement, dans les familles également. Voilà, l'éducation des enfants, c'est des buts que l'on poursuit et ils sont louables. Mais la Bible également, elle nous exhorte, elle nous encourage ce matin à ne pas inverser l'échelle de valeur. Parce que si nous vivons simplement que pour les choses d'ici-bas, il y a un verset qui nous dit que nous sommes les plus malheureux du monde. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données. Comment ? par-dessus, en abondance. Donc Jean chapitre 10, verset 10, je suis venu afin que mes brebis, elles aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Alors cette vie d'abondance, si on ne la vit pas, on doit chercher le Seigneur. On doit continuer et marcher en héros. Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne cette foi d'enfant pour dire, mais je veux saisir ces paroles. Et donc, se dire, mais oui, le Seigneur peut le faire. Ce matin, j'ai donné plusieurs, alors le mot, comprenez bien, quelques clés, quelques principes de la parole de Dieu. Si on les applique, c'est sûr qu'on sera des héros, des vaillants héros. Pas à se jeter là, par terre, mais à avoir la force du Seigneur. Alléluia. Gédéon a donné des excuses, comme il le fit Moïse. Vous vous rappelez, quand donc, l'ange de l'Éternel vient, et on l'a vu tout à l'heure, donc il implore toutes sortes d'excuses. Je suis le plus petit, je suis ceci et cela. Il y a beaucoup de similitudes avec Moïse, quand le Seigneur vient le chercher. Voilà, je t'ai choisi, toi, pour être le libérateur du peuple. Bah, et lui, il dit pas, chouette, super. Il dit, non, maintenant, je ne veux pas y aller. Pourquoi il ne voulait pas y aller? Parce qu'il venait juste au bout de quelques années, quand même. Il venait juste de fuir son passé. Et il fallait qu'il retrouve son passé pour pouvoir avoir cet avenir, pour qu'il soit guéri de son passé. C'est ça l'image. Alors, il va opposer des excuses. Que Dieu fasse que ce matin, il n'y ait pas d'excuses et qu'on soit transparent avec le Seigneur. Parce que le Seigneur connaît nos cœurs. Et qu'on puisse se tourner vers lui et remplir le mandat qu'il nous donne. Gédéon avait besoin de signes. Il avait besoin, vous rappelez, la toison qui est là, parce qu'il veut, il veut être sûr que le Seigneur est avec lui. Et frères et sœurs, que nous puissions nous inquiéter que ce que nous faisons, c'est dans la volonté de Dieu, pour être sûr que Dieu est avec nous. Ça aussi, on l'a vu, des fois on prévoit certaines choses, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit vient, et puis on bouche les oreilles, et puis on regarde ailleurs. Mais que Dieu fasse qu'on puisse être dans cette volonté de Dieu et que nous puissions vivre désormais, là, à partir d'aujourd'hui, placer notre foi dans le Seigneur et vivre en super-héros. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci encore pour toutes tes grâces. Seigneur, nous avons partagé cette parole. Cette parole, c'est trouver le chemin de nos cœurs. Tu savais, Seigneur, qui avait besoin d'écouter, d'entendre cette parole pour encourager. Et Seigneur, tu dis à quelqu'un, va avec la force que tu as, vaillant héros. Seigneur, toi, quand tu nous vois avec la perspective d'avenir, avec ce changement, ce que nous allons devenir. Seigneur, je te prie que personne ne manque le but. Que chacun atteigne ce que tu as prévu pour lui ou pour elle. Pour servir à la gloire de ton nom. Et il n'y a rien de plus beau que de te servir, toi, pour que ce soit pour ta gloire. Seigneur, nous sommes dans cette faiblesse, nous voulons rester dans cette faiblesse, Seigneur, parce que c'est là où tu vas nous rendre forts, alléluia, parce que tout dépend de toi. Merci d'avoir parlé au cœur, qu'il y ait, Seigneur, des décisions maintenant, que chacun puisse rectifier certaines situations, et qu'à toi seul revienne toute la gloire. Merci, notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.